Bienvenue dans Mon Thorax à l'Index, un podcast qui donne la parole aux patients concernés par les déformations de la paroi antérieure du thorax. Pectus excavatum, carinatum, arquatum, symétrique ou asymétrique, avec ou sans retentissement sur le souffle ou plutôt la fonction cardiaque, la jungle des déformations de la paroi antérieure du thorax mérite une exploration conjointe par les patients et le corps médical. Les témoignages recueillis lors de ces conversations permettront peut-être de vous éclairer sur ce sujet, et particulièrement sur le ressenti des premiers concernés, les patients. Bonne écoute.
Je m'appelle Emmanuel Briand, je suis chirurgien thoracique à l'Institut Mutualiste Montsouris et je m'occupe plus spécifiquement dans cet établissement du traitement des déformations de la paroi antérieure du thorax.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Les déformations de la paroi antérieure du thorax, ce sont un ensemble d'anomalies qui concernent essentiellement les cartilages et les os de la partie antérieure du thorax. Donc, habituellement, c'est l'excès de longueur des cartilages qui va en fait projeter le sternum, c'est-à-dire l'os qui est au centre du thorax, vers l'avant ou vers l'arrière, réalisant dans un cas, quand c'est vers l'avant, ce qu'on appelle une carène, dans le cadre du pectus carinatum, ou alors vers l'arrière, ça réalise une cuvette, et c'est ce qu'on appelle le pectus excavatum.
C'est quoi le plus courant ?
Alors, de très très loin, c'est le pectus excavatum. En France, les études statistiques qui ont été menées montrent qu'on entend environ 80% de pectus excavatum dans l'ensemble des déformations de la paroi antérieure du thorax. Les pectus carinatum sont beaucoup plus rares, environ 10%. Il faut savoir aussi que c'est plus souvent des garçons qui sont touchés en France, 80% de garçons. Ça nous laisse quand même 20% de filles. C'est important parce que les filles qui sont touchées peuvent l'être de façon assez sévère et ça peut avoir un retentissement important, notamment à cause de la poitrine.
Je vais poser une question bête, mais est-ce que ça vient de quelque chose de particulier ?
Alors, on ne sait pas vraiment. L'hypothèse de l'excès de longueur des cartilages, c'est l'hypothèse la plus couramment exposée par les docteurs. Mais ça reste qu'une hypothèse. En fait, c'est certainement beaucoup plus complexe, avec probablement un défaut dans la croissance et dans la relation entre les côtes, les cartilages et le sternum. Tout ça évoluant ensemble comme une espèce de trio et qui peut évoluer d'une façon, on va dire, standard, mais qui peut aussi, de temps en temps, sortir des standards pour aller vers des déformations, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, de façon symétrique, de façon asymétrique. Ce sont des déformations qu'on peut retrouver dès la naissance, chez les tout-petits. Ce sont des déformations qui peuvent arriver lors de la préadolescence, quand la poussée de croissance principale débute. C'est assez fréquent. Et c'est des déformations qui peuvent nous suivre toute notre vie, parfois sans de réel retentissement, mais parfois aussi avec un retentissement important, tant d'un point de vue psychosocial que parfois même physique, notamment au niveau cardio-circulatoire.
Oui, c'est ça. C'est que non seulement, effectivement, physiquement, ça peut se voir et ça peut être gênant pour la personne qui a ça, mais en plus, on peut avoir des problèmes de santé.
Alors, il faut quand même dire les choses simplement. La dimension psychosociale est nettement en avant, parce que le retentissement sur la santé, c'est donc le retentissement, on va dire, essentiellement sur le cœur et la circulation. On dit souvent à tort qu'on a parfois, quand on a un pectus excavatum, c'est-à-dire la cuvette, on a parfois du mal à respirer. Mais en fait, ce n'est pas un problème de respiration. C'est exceptionnel que les poumons en eux-mêmes soient touchés. Quand on a une cuvette qui est très importante et qui vient comprimer la partie droite du cœur, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir des problèmes de circulation du sang, et c'est ça qui va entraîner, à l'effort, on va dire une sorte d'essoufflement ou une difficulté de récupération après l'effort. Il y a aussi toute une cortège de symptômes qui peut exister, comme des petites douleurs, des sensations bizarres, des palpitations, des choses comme ça, qui ne sont pas rares. Mais clairement, et il faut le dire, le retentissement psychosocial, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement mis en avant par les patients.
Justement, quel genre de patients viennent te voir? Est-ce que les gens arrivent désespérés? Est-ce que les gens arrivent au contraire juste avec des questions? Est-ce que les gens inventent parfois peut-être leur pectus?
Alors, tout est possible. Toutes les situations sont retrouvées dans la consultation spécialisée qu'on a montée pour répondre à cette demande. La grande majorité des patients qui viennent sont des patients jeunes, qui ont surtout beaucoup cherché des informations sur Internet parce que force est de constater qu'ils n'ont pas trouvé les réponses auprès de leur médecin. Souvent, cette pathologie, elle est mal connue et donc les patients, ils sont un petit peu insatisfaits vis-à-vis des réponses qui leur sont apportées. Donc la première occurrence, c'est les parents qui amènent un petit enfant qui présente une déformation de la paroi antérieure du thorax dès la naissance. Il faut savoir que ce n'est pas la situation la plus fréquente, mais ça peut arriver. Donc c'est une déformation de la paroi du thorax dite congénitale. Il faut savoir que ces anomalies peuvent régresser dans les 5 premières années de la vie. Et dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de traitement à faire. On doit expliquer ce que c'est et on doit surveiller. Et surveiller sur le long terme, parce que ces anomalies peuvent s'aggraver dans le temps. La deuxième partie de la vie où on a une consultation, c'est souvent la préadolescence ou l'adolescence. Donc clairement, c'est le cas le plus fréquent, c'est-à-dire vers l'âge de 10-11 ans, lors de la première poussée de croissance, les garçons, les filles voient apparaître une déformation de la paroi du thorax qui n'existait pas. C'est un moment un petit peu clé où se construit aussi l'image du patient et ça peut être assez perturbant. Et souvent, les patients n'ont pas les réponses. Et donc, dans ces cas-là, en fonction du type de déformation, on peut aussi proposer des solutions qui sont la plupart du temps non chirurgicales pour respecter, en fait, cette poussée de croissance et accompagner l'adolescent, surtout quand le thorax reste souple. On a des solutions qui ne sont pas chirurgicales.
Moi, je ne suis pas médecin, évidemment, mais ouais. Ça me fait un peu penser aux dents. C'est-à-dire que...
Alors, la comparaison est excellente. C'est une comparaison que j'utilise souvent. Les traitements non chirurgicaux peuvent être tout à fait comparés à une forme comme l'orthodontie. Donc on a des traitements, on va dire, de compression qui est utilisé pour remettre le pectus carinatum en position normale. Et on a des systèmes de ventouse qui va être utilisé dans le pectus excavatum pour remettre le sternum également en position normale. La troisième partie des patients, c'est les patients qui arrivent un petit peu plus tard.
La vingtaine ?
Voilà, entre 17 et 30 ans. Donc c'est des patients dont souvent la poussée de croissance est terminée et qui ont plutôt un thorax déjà rigidifié avec, avec une déformation qui est un petit peu fixée. Donc dans ces cas-là, c'est très important de faire un petit peu le point sur cette anomalie. Pourquoi le patient vient ? Est-ce qu'il veut juste de l'information ? Est-ce qu'il veut exprimer le retentissement psychique par rapport à cette anomalie ? Pourquoi je ne suis pas comme les autres ?
Mais c'est ça, on se compare beaucoup.
Absolument, tout à fait. Et puis, parfois, il y a des patients qui viennent parce qu'ils ont des symptômes très, parfois, importants. Et là, on a des solutions. Quand le thorax est rigidifié, on a des solutions qui sont plutôt chirurgicales, où on va, en fait, en traitant essentiellement les cartilages, en réalisant l'ablation des cartilages qui sont trop longs, on va remodeler la partie antérieure du thorax. Donc ça, c'est une intervention chirurgicale qui va permettre de restaurer une anatomie normale.
Et puis, il y a une quatrième solution, Nantes ?
Alors, il y a une dernière situation à laquelle on est parfois confronté, c'est des patients qui sont plus âgés, qui ont vécu un petit peu toute leur vie, sont construits avec ces anomalies, et qui arrivent souvent à 35, 40, 45 ans, parfois même plus tard, avec une demande en disant « Mais moi, j'ai vécu toute ma vie avec ça, et maintenant, je veux des réponses, j'en peux plus. Je veux qu'on change ça. » Alors, ce n'est pas les plus fréquents, mais ça arrive.
Alors, avant de parler justement de l'aspect psychologique de ces patients, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait ce podcast et que c'est très important, j'aimerais qu'on fasse un point sur le côté médical rapidement, bien sûr. Mais à Montsouris, vous proposez quelque chose de particulier parce que vous avez fait un choix.
Alors, dans notre institution, on propose d'abord des solutions pour toutes les étapes. On privilégie systématiquement, quand c'est possible, un traitement non chirurgical.
Oui.
Il est évident que, même si c'est un petit peu long, mais porter une ventouse ou porter un système de compression dynamique, qui est un petit système de brassière, en fait, assez léger, si ça peut résoudre le problème en 1 an, 2 ans de traitement sans opération, bah c'est très bien. En ce qui concerne l'intervention chirurgicale, c'est vrai qu'on a fait un choix. Le choix qu'on a fait, c'est de traiter les patients une fois que la poussée de croissance principale est terminée. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de faire une chirurgie de surface qui, à notre sens, a un rapport bénéfice-risque favorable.
Alors ça se passe comment ?
Qu'est-ce que Alors vous ça se passe comment ? En fait, c'est assez simple. On va faire une ouverture la plupart du temps sous la ligne des pectoraux pour les garçons ou sous la ligne dans ce qu'on appelle le sillon sous-mammaire pour les filles.
Donc sous les seins.
Exactement.
Hein,
c'est la ligne du soutien-gorge, en fait,
voilà.
Sous les seins. Et par cette ouverture, en fait, on va se glisser sous les muscles pectoraux tout en restant en surface pour aller remodeler le thorax. On va retirer les cartilages qui sont trop longs tout en gardant la gaine autour des cartilages et on va redresser délicatement le sternum vers l'avant pour effacer la cuvette dans les pectus excavatum, ou vers l'arrière, pour amener le sternum en position anatomique dans les pectus carinatum. Une fois qu'on a fait ça, on va recoudre la gaine des cartilages, qu'on va retendre, et on va, pour les pectus excavatum, glisser une petite attelle en titane qui va rester 6 mois et qui va permettre une réossification de cette paroi antérieure du thorax que nous, on aura remodelée. Dans les pectus carinatum, c'est encore plus simple, on n'a pas besoin d'être de matériel. Donc, une fois qu'on a été opéré, ben, le thorax va cicatriser, va se réossifier en position anatomique. Donc, du coup, on a fait ce choix de prendre la technique qui avait la meilleure balance entre le bénéfice et le risque.
Les gens que tu vois arriver, tu me disais tout à l'heure, ils ont des questions, et puis au bout d'un moment, à discuter avec toi, ils décident de faire cette chirurgie ou non. Comment ils sont psychologiquement ? Est-ce que c'est vraiment un trouble pour eux ? Est-ce qu'ils se sentent vraiment différents ? Est-ce que c'est difficile dans leur vie ? On a une série de patients qui nous parlent dans ce podcast et la chose qui revient souvent, c'est « j'osais pas aller à la piscine, j'osais pas me mettre en maillot de bain et je voyais bien que c'était pas pareil ».
Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'importance de la déformation et le ressenti que le patient peut avoir. On peut voir des patients qui ont des déformations finalement assez légères et qui par contre ont un ressenti terrible. A l'inverse, on voit aussi des patients qui ont des déformations très importantes, avec même parfois un retentissement sur la fonction cardiaque et pour qui ce n'est pas vraiment un problème. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir monté cette consultation spécialisée pour donner un temps d'écoute, prendre le temps d'écouter le patient, qu'est-ce qu'il ressent, pourquoi il vient, pour essayer de s'adapter au mieux.
Oui, vous n'allez pas dire « ah bah boum, chirurgie,
exactement.
Après-demain ».
Alors ça, c'est fondamental.
Voilà.
Ça, c'est fondamental et c'est vraiment un message qu'il faut faire passer dans ce podcast. Ce sont des chirurgies qui ne sont jamais urgentes, jamais. Donc, on a le temps de discuter, on a le temps de faire le point, dans certains cas, de demander des examens spécifiques pour étudier la fonction du cœur, étudier le souffle, etc., etc. Et ça, c'est un ensemble de choses qui va permettre, petit à petit, au bout de parfois 2, voire 3 consultations, de prendre une décision. La décision, elle peut parfaitement être de ne pas opérer. La décision, elle peut parfaitement être de confier le patient, par exemple, à un collègue chirurgien plasticien. S'il y a une déformation de pectus excavatum, par exemple, modérée, qui ne joue pas du tout sur la fonction cardiaque, on va demander un avis auprès du collègue chirurgien plasticien qui, pourquoi pas, va proposer des techniques plus simples de comblement en mettant, par exemple, de la graisse dans le creux ou alors une petite prothèse en silicone. Donc ça, c'est beaucoup plus simple et c'est parfois plus adapté.
L'idée aussi, c'est qu'on parle à des gens qui peut-être n'osent pas.
Je crois que profiter de l'expérience d'un centre à haut volume, c'est-à-dire qui voit beaucoup de patients.
Combien ?
À l'heure actuelle, on voit plus de 150 patients en consultation par an. On opère actuellement dans le service entre 30 et 40 patients par an.
D'accord.
Voilà. Et souvent, c'est des patients qu'on a vus un an, deux ans avant. Mmh. Parfois, c'est des patients qu'on a vus à l'âge de 13, 14 ans, qui ne pouvaient pas être appareillés, ou qui ne pouvaient pas être traités par des méthodes non chirurgicales, ou chez qui ces méthodes ont été inefficaces, et qui ont été opérés dans un second temps.
Mais ça, c'est l'avant. Moi, je voudrais aussi savoir l'après. Qu'est-ce que c'est la psychologie et l'état physique de ces gens après ?
Alors, dans la grande majorité des cas, ben, il faut dire quand même que la chirurgie, ça se passe bien. Donc ça, c'est pas toujours facile, hein, notamment au début.
Ça fait mal.
Ouais, il peut y avoir des douleurs. Alors ça, c'est probablement le point sur lequel on a le plus progressé avec nos collègues anesthésistes, c'est la prise en charge de la douleur. Que ce soit dans la période post-opératoire immédiate ou même à distance, on essaie vraiment de faire attention à ça et de permettre aux patients, après l'opération, de retrouver un fonctionnement le plus rapide et le plus harmonieux possible. Mais il faut quand même savoir que quand on met une attelle, par exemple, pour les pectus excavatum, bah c'est un petit peu gênant. Et ça peut rester gênant pendant plusieurs semaines avant que le corps s'habitue à cette nouvelle donne. Alors, le ressenti qu'on a, nous, les chirurgiens qui pratiquons cette intervention, c'est que les résultats sont bons et que surtout, on a une vraie transformation des patients. C'est un petit peu, on pourrait presque employer la métaphore du papillon qui sort un peu de sa chrysalide. Hein, c'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment qu'une fois qu'on a opéré les patients, une fois qu'on a fait ce chemin, il y a une transformation qui n'est pas seulement physique, et qui est souvent aussi psychologique, avec une ouverture sur le monde.
Sociale, donc aussi.
Une ouverture sociale, tout à fait, vraiment importante. Et ça, ça donne une grande satisfaction.
Merci Emmanuel.
Merci Marjorie.
C'était un épisode de Mon Thorax à l'index, le podcast qui donne la parole aux patients concernés par les déformations de la paroi antérieure du thorax. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur prise en charge médicale sur le site internet de l'Institut Mutualiste Montsouris et de son département thoracique www.imm.fr. Merci à tous, à bientôt.